Bienvenue dans Horizon Inaccessible.
Bonjour chers auditeurs, si l'année 1969 a été une grande année astronautique, elle a été aussi faste pour l'aéronautique. Cette année-là, deux avions mythiques ont pris leur envol, le Boeing 747 le 9 février et Concorde le 2 avril. Si l'on ne peut que regretter la piètre carrière commerciale ainsi que la fin tragique du Concorde, le Jumbo Jet est toujours en service 50 ans après et il continue à se vendre après plus de 1500 exemplaires livrés. Sacré pied de nez à Airbus, qui vient d'annoncer la fin de la production de son concurrent, l'A380, pour 2021. Mais revenons à l'espace, avec le premier vol habité spatial de l'histoire. Le 12 avril 61, à 9h07, heure de Moscou, Yuri Gagarin est le premier homme à s'aventurer dans l'espace, depuis le cosmodrome de Turiya-Tam, premier nom de Baïkonour. Installé dans la capsule Vostok 1 de Teuton 6, propulsé par une fusée Vostok 1 de 400 tonnes de poussée. Les Russes donnaient le même nom à la fusée et au vaisseau spatial. Et Vostok veut dire en russe Est ou Orient. Avant de rentrer dans la capsule, Gagarine lève les deux bras et dit à ses camarades « À bientôt !» Sitôt installé, il appelle le centre de communication. « Terre, ici le cosmonaute. » Alors que le directeur du vol lui annonce « Départ », il répond « Allons-y, tout est normal, je me sens bien. » 70 secondes après le décollage, la Terre lui demande comment il se sent. Réponse « Je me sens bien. Et chez vous, ça va ?» Pendant le vol, il y aura plusieurs échanges entre la Terre et le Vostok. Gagarine déclarant « Le vol s'effectue normalement, je me sens bien, je supporte bien l'état d'impondérabilité. » Il effectuera un seul tour de la Terre en 108 minutes et se pose près du village de Slovlevka, au nord de la mer Caspienne, à côté d'une ferme où la fermière et sa fille sont étonnées par cet homme tombé du ciel et par sa capsule encore fumante, quelques centaines de mètres plus loin. Il s'adresse à elle. « Je suis des vôtres, camarades, amis. » Puis il est rejoint par les militaires qui viennent d'arriver au point d'atterrissage en voiture et en hélicoptère. Il reçoit alors un appel de Léonid Brejnev, puis de Nikita Khrouchtchev qui lui déclare « Je suis content d'entendre votre voix, Yuri Alexeyevitch. » Il est nommé major par le maréchal d'aviation Verchinin. Sa doublure pour ce vol, German Titov, le retrouve. Et ensemble, ils font une partie de billard avant une paisible nuit de sommeil. Il reçoit un accueil triomphal, un véritable héros moderne, à Moscou, sur la place Rouge, le 14 avril 61, où il reçoit le titre de héros de l'Union soviétique. Le 15 avril, le lendemain, soit trois jours après ce vol historique, Yuri Gagarin était reçu à l'Académie des sciences de Moscou par son directeur, Alexandre Nesmeyanov, qui donna des détails sur le vaisseau spatial et sur la condition de son pilote, soulignant le courage exceptionnel, l'endurance et la maîtrise de soi manifestée par Gagarine. Il a tout au long du vol communiqué avec sa base sur sa condition et l'état de son vaisseau. Sa première expression au sortir des nuages en découvrant la Terre fut « Quelle beauté !» Au cours de la conférence de presse qui suivit le discours du président de l'Académie des sciences, Yuri Gagarin a déclaré, entre autres, s'être bien habitué à la pesanteur, avoir bu de l'eau et mangé sans désagrément, assurer les communications radio et inscrire le résultat de ses observations de la Terre dans le journal de bord et sur son magnétophone. La Terre a une auréole bleue, le ciel est une couleur absolument foncée, les étoiles apparaissent plus claires et plus nettes que de la surface de la Terre. L'académicien Férodov a déclaré que le peuple soviétique considérait cette victoire comme la réalisation de toute l'humanité, au service de tous les peuples, du progrès, du bonheur de tous les hommes et de toutes les femmes de la Terre, au service de la paix et de la sécurité des peuples. et que l'Union soviétique ne revendiquait aucun territoire extraterrestre, bien que des sondes soviétiques se soient posées sur la Lune. Le président de l'Académie des sciences a précisé qu'il n'y avait pas eu d'autres tentatives précédentes pour envoyer un homme dans l'espace et qu'aucun appareil photographique ne se trouvait dans le vaisseau. Gagarine l'a confirmé en disant qu'il n'avait jamais volé auparavant dans un vaisseau balistique. Ce qui n'a pas été dit au cours de ces manifestations, c'est qu'au moment du retour, le module de service refuse de se séparer du module de rentrée, entraînant une rotation violente à 30 degrés par seconde. La séparation n'interviendra qu'après 10 minutes d'effort de la part de Gagarine. Et qu'en plus, le Vostok a atterri sans passagers. Yuri Gagarine s'étant éjecté à 7000 mètres d'altitude de sa capsule avec son siège pour se poser en parachute. Comme cela était prévu, le Vostok n'étant pas équipé de rétrofusée. Mais le vol ne pouvant être officiellement homologué que si le vaisseau atterrissait avec son passager, les Soviétiques ont caché pendant longtemps le fait que Gagarine avait été éjecté de sa capsule. Yuri Gagarine est né le 9 mars 1934 à Kulichko, près de Gzast, dans la province de Smolensk, d'un père charpentier. Il ne fait pas partie de la nomenclature soviétique. Il est le troisième d'une famille de 4 enfants. Son premier contact avec l'aviation a lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, son village se trouvant près de la ligne de front. Il voit passer de nombreux avions allemands et russes, et l'un d'eux vient même de faire un atterrissage forcé dans une chambre près de sa maison. Le pilote leur explique alors le fonctionnement de l'avion, les commandes, le vol. Les enfants rêvent alors tous de devenir pilotes pour défendre leur patrie. La paix revenue, il devient fondeur dans une usine de machines agricoles, mais poursuit en parallèle des études techniques et entre au collège industriel de Saratov. Il découvre alors les travaux de Tsiolkovsky, rejoint un club amateur de pilotage et entre en 1955 dans l'école de pilotage d'Orenbourg, où il devient en 1957 pilote de MiG-15. Au cours de ses lectures, il voit dans le journal un article de l'académicien Leonid Sedov et le découpe. Il est sélectionné fin 1959 pour participer au programme spatial soviétique avec 5 autres pilotes. Après avoir réussi toutes les épreuves, et elles ont été multiples, il suit les différents entraînements imaginés par les soviétiques pour préparer les cosmonautes à affronter les spécificités du vol dans l'espace, le vide élevé, les écarts de température très importants, les radiations, et toutes sortes de situations possibles, le bruit, les vibrations, les très fortes accélérations, la pesanteur. Avec de nombreux tours de centrifugeuses, durant lesquels les apprentis astronautes devaient montrer leur capacité à effectuer convenablement quantité d'opérations malgré les accélérations subies. Autre test sélectif, la cellule d'isolement, dans lequel l'élève était complètement coupé du monde, avec des messages à envoyer de façon régulière, mais sans retour, et sans savoir quand allait finir cette épreuve. Suivent des cours très poussés sur la technique des fusées, du matériel de navigation, de la structure du vaisseau, des cours d'astronomie, de médecine cosmique, sans oublier les vols d'entraînement, les sauts en parachute et les stages de survie en cas de posée dans une zone éloignée. Il est choisi pour ce premier vol pour ses qualités de pilote, sa parfaite maîtrise de la situation en toutes circonstances et aussi parce que sa petite taille, 1m58, était plus facile à loger dans le cockpit étriqué du Vostok. Bien que concerne la faible fiabilité du lanceur Semyorka à cette époque, tout en sachant qu'il a couru un risque immense de périr dans une explosion au décollage, il accepte cette mission. Car il fallait une sacrée dose de confiance dans la technique, ou d'inconscience, pour s'installer au fusée de la fusée Semyorka. En effet, c'était son 17e tir, et sur les 16 précédents, 8 avaient fini dans une explosion, l'une d'elles ayant entraîné la mort de plusieurs techniciens sur le pas de tir. Après cet exploit, il ne revolera plus dans l'espace. Il fera de nombreuses conférences à travers toute la Russie et reprendra son métier de pilote de chasse. Mais il se tuera le 27 mars 1968, le jour de son 34e anniversaire, lors d'un vol en MiG-15, avec son entraîneur Vladimir Seryogine, par un temps très nuageux, offrant peu de visibilité. Plusieurs versions circuleront à propos de cet incident. Leur avion ayant été pris dans le sillage du réacteur d'un MiG-21 ne pourra redresser de sa vrille et s'écrasera au sol. L'enquête démontrera même qu'à 2 secondes près, les pilotes auraient pu redresser leur avion et sortir de la chute. Autre version, en patrouille avec un MiG-15, l'autre avion aurait été déstabilisé par l'approche d'un MiG-21 ou d'un Sukhoi-15, un biréacteur. Et Gagarin aurait manœuvré trop brutalement pour l'éviter, entraînant la chute de son appareil. Troisième version, son MiG-15 aurait heurté un ballon sonde. Les dépouilles des deux pilotes seront déposées dans le mur du Kremlin et la ville de Gzast sera rebaptisée Gagarine en son honneur. Une marque d'horlogerie a été créée en 1961 en l'honneur de Gagarine, Raketa, fusée en russe. Sa production a repris en 2014 et un modèle est disponible en France, dessiné par un ancien cosmonaute, Alexander Ivanchenkov. L'espace n'a pas inspiré que des fabricants de montres russes. L'américain Hamilton commercialise la Khaki Field Murph, la montre qui a sauvé l'humanité dans le film Interstellar, en permettant au héros d'envoyer un message en morse à sa fille Murph. Nous allons voir les noms donnés aux différents voyageurs de l'espace par les pays. L'URSS parle de cosmonautes. Les USA, d'astronautes. En Europe, nous avons des spationautes. Les Chines, eux, envoient des taïkonautes dans l'espace. Et demain, l'Inde prévoit d'envoyer des gaganautes. Mais après cette première spatiale de Gagarine, voyons quelles ont été les autres premières soviétiques. German Stepanovich Titov, la doublure de Gagarine, fait 17 révolutions autour de la Terre sur Vostok 2 le 6 août 61. Le 11 août 61, les vaisseaux 3 et 4 firent le premier rendez-vous spatial, se rapprochant à 5 km à 237 km d'altitude. Le 12 octobre 1962, un vaisseau Voskhod, en russe levée ou ascension, pesant 3 tonnes, propulsé par une fusée de plus de 1000 tonnes de poussée, emporta 3 passagers, Vladimir Komarov, Petrovich Feotistov et Borisovich Egolov. Après 16 révolutions en un peu plus d'une journée, leur atterrissage fut le premier à se faire dans la capsule, freiné par des rétrofusées, les autres cosmonautes s'éjectant auparavant, peu avant le poser. Le 16 juin 1963, Valentina Tereshkova devient sur Vostok 6 la première femme dans l'espace. Elle effectuera 48 révolutions en 3 jours autour de la Terre, de concert avec Feodorovich Bykovsky qui volait sur Vostok 5. Elle s'était engagée comme volontaire pour l'espace en 1961. Mais elle va souffrir du vol de l'espace, du mal de l'espace, et une erreur de programmation l'a placée sur une trajectoire de retour vers l'espace et non en rentrée atmosphérique, ce qui sera corrigé au tout dernier moment. Ces deux vols seront les derniers vols habités occupés par un seul passager. C'est aussi en 1963 que l'Union soviétique lance un programme pour aller voler autour de la Lune, Soyouz, Union ou Alliance ou Entente en russe. Le 18 mars 1965, Alexei Leonov est le premier piéton de l'espace, au cours d'une sortie de 12 minutes. Il est relié à son vaisseau Voskhod 2 par un câble de 5 mètres, son collègue Beliaïev restant dans la capsule. Un piéton très rapide, 8 km par seconde. Mais au moment de rentrer, il ne passe plus par le hublot. Son scaphandre s'est gonflé dans le vide spatial. Pour arriver à passer, il utilise un subterfuge, il appuie sur sa valve de dépressurisation, au risque de se retrouver sans air. Et il arrive à rentrer dans sa capsule. Mais les ennuis ne sont pas finis. Le vaisseau subit toute une série de défaillances, et la zone d'atterrissage est ratée de plusieurs dizaines de kilomètres. Et les astronautes passeront 24 heures dans leur cabine après leur posée, le temps qu'on les retrouve, par moins 30 degrés. Ces péripéties ne seront connues que bien plus tard, la version officielle du moment signalant un exploit accompli sans aucun problème. Les Russes ont utilisé un système assez original pour cette première. Un sas gonflable était déployé devant l'écoutille du Voskhod. Leonov y pénétra, ferma l'écoutille, fit le vide et sortit. Au retour, une fois l'écoutille refermée sur les deux cosmonautes, le sas était largué. Cette procédure ne sera plus réutilisée. Buzz Aldrin, lors d'une conférence, expliquera que la première sortie dans l'espace n'était en fait pas une marche, mais une plongée dans l'espace. En avril 67, le premier vol du nouveau vaisseau Soyouz, Soyouz 1, piloté par Vladimir Komarov, avec Yuri Gagarin en doublure. Il devait être rejoint sur l'orbite par Soyouz 2, et les équipages devaient s'arrimer et passer d'un vaisseau à l'autre. Mais les choses se passent très mal. Komarov fait face à de nombreux problèmes et il est décidé d'envoyer Soyouz 2 en secours. Mais un orage fait griller au sol les circuits de la fusée. Le rendez-vous ne peut être effectué et le pilote Vladimir Komarov a du mal à maîtriser son attitude pour atterrir au bon endroit. Et comme le de malchance, le parachute principal de la capsule refuse de s'ouvrir. Le parachute de secours se prend dans le parachute extracteur et se met en torche. La capsule s'écrase dans les steppes du Kazakhstan, tuant Komarov. Les Américains proposeront aux Soviétiques d'échanger leurs expériences pour éviter des accidents, ce que les Soviétiques refuseront dans un premier temps. Mais un accord sur le sauvetage des astronautes sera quand même signé en 1968. Soyouz 3 fera le premier rendez-vous spatial en octobre 68. Et le 14 janvier 1969, les vaisseaux Soyouz 4 et 5 s'amarrent en orbite et des membres d'équipage passent d'un vaisseau à l'autre. Un autre drame va endeuiller le programme Soyouz. Au retour d'un rendez-vous avec Salyut, lors de la rentrée de Soyouz 11 en juin 71, la cabine subit une dépressurisation accidentelle très rapide au moment de la séparation d'avec le module orbital. Et ses trois occupants, Vladislav Volkov, Sergei Dobrovolsky et Viktor Patsayev, périssent, car les équipages russes ne portaient pas de combinaison spatiale à bord. Cet accident entraînera la modification des équipages. Les cabines Soyouz n'emporteront plus que deux passagers équipés de leur combinaison. Voyons maintenant ce qu'étaient les projets du programme lunaire habité russe. Ce programme n'a officiellement été reconnu par les Soviétiques qu'en 1991. Mais il était évident pour tous les spécialistes qu'un programme lunaire était en préparation. Les Soviétiques ne pouvaient pas laisser les Américains conquérir seuls la Lune. Aussi lancent-ils la construction d'une superfusée de 4500 tonnes de poussée, la NR. Projet dirigé par Korolev, celui de la Semyorka. Mais ces quatre lancements se solderont par l'explosion du lanceur, le dernier en novembre 1972. Mais en parallèle, ils ont lancé sur la Lune des sondes, les sondes zones 4 à 6, récupérant sur Terre les deux dernières, zone 4 manquant sa rentrée dans l'atmosphère et détruite par le contrôle au sol. Le 14 septembre, Zone 5 met le cap sur la Lune. À son bord, deux tortues qui contourneront la Lune pendant 4 jours plus tard et rentreront sur Terre, dans l'océan Indien, faisant encaisser au passagère une décélération de 20 G, soit 20 fois l'accélération terrestre. Un homme n'aurait jamais supporté ça. Mais les tortues sont récupérées vivantes. En plus de ces deux tortues de Horsfield, il y avait des mouches, des vers de farine, des bactéries, des graines et des plantes. Mais l'histoire n'a pas retenu le nom de ces tortues, pourtant les premiers êtres vivants à avoir fait le tour de la Lune. Ce survol par les Russes, malgré l'absence de cosmonautes à bord, met les Américains sous pression, qui se doutent bien qu'un autre vol, habité cette fois, est en préparation. Effectivement, zone 6, en novembre, fera un autre survol à 2200 km d'altitude au-dessus de la Lune. Mais le vaisseau subit une décompression et les animaux embarqués sont tués lors du retour à Terre. Mais ce n'était qu'une sonde automatique, bien moins complexe qu'un vaisseau Apollo et ses trois occupants humains. À ce moment-là, les Soviétiques avaient désigné leurs deux explorateurs de la Lune, Alexei Sileonov et Oleg Makarov. Leur mission était de survoler la face cachée de la Lune. Mais Leonov a un accident de voiture le soir de sa nomination et un autre équipage est désigné, Bikovsky et Rukavichinov. Mais au vu de l'échec de zone 5, les responsables soviétiques décident d'ajourner la mission, jugée trop dangereuse, jusqu'au 17 décembre, 4 jours avant le décollage d'Apollo 8. Et finalement, devant les risques, l'annulent. Si la course à la Lune a été abandonnée par les soviétiques, ce programme leur a permis de faire des progrès dans les missions de sonde automatique et aussi de développer une remplaçante à la N1, la fusée Proton, en service aujourd'hui encore. Les sondes automatiques soviétiques, mais avant d'en parler un petit peu de technique, l'effet gravicélération. La trajectoire des engins spatiaux n'est jamais une ligne droite. Il faut respecter les lois de la gravitation pour rejoindre son objectif. Aussi, les ondes emmagasinent de l'énergie en passant auprès des planètes qu'elles vont croiser sur leur chemin. À ce moment-là, elles récupèrent une infime partie de l'énergie cinétique de la planète et par effet de fronde, elles continuent leur route sans dépenser un gramme de carburant. C'est la planète qui va perdre un peu d'énergie. Mais vu les rapports de masse, sa trajectoire n'en sera pas perturbée. Les Soviétiques, en plus des sondes vers la Lune, ont envoyé des sondes aussi vers Vénus. Car les Américains s'étant donné Mars pour objectif, les Russes choisissent Vénus et développent un ambitieux programme de conquête de l'étoile du berger. En février 1961, Vénusique 1 tombe en panne 15 jours après le décollage. En avril 1961, la sonde Venera 1, lancée en février par la fusée Sputnik 8, passe à 96 000 km de Vénus. Mais son système de communication étant en panne, c'est le radiotélescope de Jodrell Bank, au nord-est de l'Angleterre, qui a mesuré cette distance. Le 1er mars 1966, Venera 3 plonge dans l'atmosphère de Vénus. Et en octobre 1967, Venera 5 et Venera 6 étudient son atmosphère et communiquent ses données à la Terre. Les Soviétiques s'intéressent aussi à Mars, et il n'y a pas que les Américains. En 1971, les Russes lancent Mars 3 avec un orbiteur et un atterrisseur. Il fonctionnera quelques secondes, envoyant quelques images très floues de la surface martienne. Et il y aura une polémique à ce sujet. Je passe maintenant la parole à Carole Taforin, qui dirige une société d'études liée à l'espace. Madame Carole Taforin, vous êtes directrice scientifique d'une société qui s'appelle Ethospace,
oui,
qui est basée à Pierrevert. Vous habitez Pierrevert et vous occupez d'éthologie. Alors, ce sont deux termes un peu barbares. Je pense qu'il serait très bon que vous expliquiez pour nos auditeurs ce que veut dire éthologie dans un premier temps, et ensuite quel est votre rôle dans cette société Ethospace, en nous disant ce que vous y faites et à quoi conduisent vos travaux.
Alors, en premier lieu, bonjour Jean-Jacques, ce n'est pas du tout barbare parce que, comme vous l'avez dit, Ethospace est basé à Pierrevert. Donc, c'est pas tout à fait juste. Ethospace n'est pas basé à Pierrevert. Ethospace n'est pas basé, même si le siège social est à Toulouse. Ethospace est basé dans l'espace. Mon bureau, c'est le pôle nord, le pôle sud, mais surtout l'orbite basse, et puis maintenant, beaucoup plus loin, dans l'espace. Donc, il n'y a pas de barbarie, il y a du concret. On travaille à Ethospace pour développer l'éthologie. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, et même peut-être la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous des éthologues. On est tous quelque part des chercheurs aussi.
Alors, éthologie, c'est quoi ? C'est la définition du dictionnaire d'éthologie, c'est quoi ?
L'éthologie, la définition que je donnerais, c'est simplement quand on a cette curiosité d'observer et de vouloir comprendre. Donc la définition, pour être un peu plus scientifique, en tout cas dans l'étymologie, ça vient du terme ethos, logos, science des mœurs ou science des conduites. Donc l'éthologie, c'est la science finalement du comportement. Au départ, l'éthologie animale, lorsque Darwin est parti en voyage, non pas dans l'espace, mais dans tous les océans et terres pour découvrir le comportement des animaux, mais aussi la géologie, en tout cas l'interaction de l'animal dans son environnement, c'était de l'éthologie.
Et Darwin, c'est bien celui qui était sur le canal Beagle, qui a observé les indigènes de l'époque sur la Terre de Feu. C'était de l'éthologie.
C'était de l'éthologie, mais en premier lieu, l'objectif, c'est d'observer donc les animaux, mais après aussi tout individu finalement vivant, que ce soit l'animal ou l'homme, plus récemment, et aujourd'hui même, l'homme dans l'espace. Donc l'éthologie, c'est la science du comportement, pour résumer. Mais ce n'est pas de la psychologie. Je suis biologiste de formation, je suis physiologiste et mon métier de chercheur m'a amené à faire de l'éthologie parce qu'au départ je voulais faire professeur d'éducation physique. Donc l'éthologie humaine, c'est l'étude du comportement moteur. Voilà donc une petite un prolongement de la définition même de l'éthologie, où on observe un individu dans son environnement. L'éthologie, c'est animal, c'est l'observation de l'individu dans son environnement naturel, pour l'animal, mais pour l'homme, et surtout l'homme dans l'espace. L'éthologie aujourd'hui, c'est l'observation de l'homme dans des environnements inhabituels.
Vous parlez espace, vous m'avez dit aussi que vous alliez travailler dans des endroits pas très forcément hospitaliers, du style île Kerguelen, Antarctique.
Tout à fait. Voilà, donc des environnements inhabituels, en tout cas des conditions extrêmes pour l'homme. Et l'objectif donc d'Ethospace, où les recherches sont développées depuis plus de 25 ans, c'est d'étudier par l'approche éthologique, c'est-à-dire on observe, on décrit et on quantifie le comportement moteur et aussi spatial dans les deux dimensions, mais ça peut être aussi dans l'espace orbital. On étudie donc ce comportement en termes d'adaptation. Hein, les îles Kerguelen, Terra Deli, l'expédition Tara aussi, en Arctique également, il y a eu des observations éthologiques. L'objectif par cette approche, par cette méthode, c'est de travailler sur l'adaptation à ces environnements extrêmes.
Donc on regarde si l'homme, confronté à des difficultés inhabituelles d'environnement, est capable de s'adapter et de progresser ou de travailler d'une façon normale, entre guillemets, sur ces environnements qui sont, pour un individu normal, absolument inhabituel et très inhospitalier, et je dirais même impossible à survivre.
Alors, il peut y avoir la notion de survie, mais doit être développée au départ, et ça c'est la base de l'éthologie, l'état d'esprit, la problématique, l'adaptation. L'éthologue sera toujours dans une vision positive de l'homme dans son environnement, à la différence des psychologues où ils vont chercher les conflits comme des symptômes pour essayer d'améliorer. Là, en éthologie, on s'intéresse à la manière dont l'homme optimise sa relation avec l'environnement. Donc certes, ce sont des conditions extrêmes, ce sont des environnements inhabituels, particuliers, mais les travaux de recherche développés à Ethospace depuis 25 ans montre que, bonne nouvelle, l'homme est allé dans l'espace et l'homme va aller voyager beaucoup plus loin. Et les projets d'Ethospace aujourd'hui, ce sont les projets de missions interplanétaires vers la Lune, mais surtout vers Mars.
Oui, parce que, bon, on l'a évoqué, la Lune, il faut 3 jours pour y aller, Mars, il faut 7 mois. Donc voilà. On n'est plus du tout dans le même environnement. Et psychologiquement parlant, il faut supporter 7 mois de confinement. 6 mois sur place, 7 mois de retour, ça fait beaucoup, beaucoup de mois dans un environnement très stressant.
Voilà, alors dans la sélection, dans l'entraînement, en tout cas dans l'état d'esprit maintenant de trouver le meilleur équipage d'astronautes, on dit que pour aller sur la Lune, il faut que l'équipage ou le membre d'équipage puisse vivre, disons, une semaine, on dira, camper dans le Luberon. Pour aller sur Mars, il faut compter 1 an. Tout en haut
de l'Everest.
Voilà.
Oui,
donc
ce
ne sont pas les mêmes conditions pour s'adapter et pour s'entraîner, mais maintenant il faut qu'on soit non pas performant pour aller dans l'espace, hein, comme les premiers astronautes, les vols de courte durée, il faut maintenant être endurant pour pouvoir passer plus d'un an, voire.
Endurant et scientifique, comme l'a été le dernier astronaute de Harrison sur Apollo 17, ils avaient envoyé un géologue. C'était le seul scientifique sur la Lune.
Oui.
Et là, je pense que quand on enverra des gens sur Mars, on enverra d'abord en même temps que les pilotes, et je pense qu'on enverra des scientifiques.
Alors,
c'est pas évident de.
Il faut envoyer en premier lieu un médecin, au moins. Oui. Hein, il faut envoyer des ingénieurs pour aussi la partie technique. Aujourd'hui, les expériences qui se font, par exemple, de confinement à Moscou, à laquelle j'ai participé, de 520 jours, où un équipage devait rester simulé un voyage aller-retour, je dis bien, vers Mars, ce qui a été montré, c'est que la diversité de l'équipage aider à s'adapter.
À résoudre les problèmes, chacun ayant sa vision de la chose, de sa personnalité et de sa formation.
Voilà, et surtout, un des facteurs particuliers aujourd'hui pour aller très loin dans l'espace et le temps, c'est la monotonie. Hein ? Le quotidien, quand on vit tous les jours en famille, c'est pas facile. Donc, imaginons quand on vit dans un groupe confiné, où on s'est choisi, mais la sélection, pas forcément, en tout cas, on s'est entraîné ensemble. Donc, rompre la monotonie, c'est une difficulté. Et le fait que les équipages soient multiculturels, c'est ce vers quoi je travaille maintenant, avec des anthropologues en particulier, eh bien, on peut arriver à une première étape d'adaptation où il peut y avoir des conflits, parce qu'il y a des différences, comme il y a sur Terre finalement. Mais l'objectif, en termes d'évolution, là on reprend un petit peu les idées, le voyage de Darwin, c'est d'arriver à un équipage qui, avec sa différence, en tout cas sa culture propre, va faire un groupe qui va s'adapter, qui va devenir un vrai équipage de martiens. Pas de martiens.
Avec des oreilles vertes et des.
Des bons terriens avec leurs habitudes de vie, les habitudes culturelles, et là on rejoint un petit peu les habitudes de fruits des Africains, etc., des tribus, qui peut être un bon modèle parce que ce sera une petite micro-société. Et le deuxième aspect sur lequel on travaille aussi avec Toutspace, c'est finalement l'autonomie. Et l'autonomie, ça amène aussi à tout ce qui est recyclage de l'eau, de l'environnement, qui permet d'avoir des retombées aussi appliquées dans les recherches, parce que si on est autonome dans l'espace, tout ce qui est recyclage, ça peut avoir aussi une incidence positive pour mieux
gérer notre planète.
Les
gens commencent à comprendre que notre planète, ce n'est ni moins qu'un gros vaisseau spatial, et il n'y a pas de rechange.
On peut aller plus loin. On ne change pas, évolue. On avance dans le temps, mais on avance dans l'espace. Oui. On ne va pas changer, on ne va pas arriver à réparer la Terre, mais on peut arriver, en allant dans l'espace, à mieux la comprendre.
Oui, c'est ça. Ouais.
Voilà, quand déjà, on prend de la distance...
Le premier vol d'Apollo 8 avait ses premières photos, enfin, ses premières visions humaines de la Terre perdue, petit point bleu dans cette distance tout noir, avait fait comprendre aux gens que si on vraiment la dégradait, on n'aurait pas d'espoir d'aller ailleurs très facilement.
Oui, après l'objectif, c'est pas de se sauver. L'objectif, c'est d'améliorer.
Oui.
Et puis aussi d'aider pour les terriens, avec tout aujourd'hui les difficultés, de garder un peu d'imaginaire. Ça aide. Et là, ce que de la Terre, on voit les planètes, eh bien, ça aide un petit peu à aller de l'avant. Mais lorsque les astronautes voient d'orbite la Terre, ils imaginent aussi les terriens qui vivent, et ils imaginent qu'il serait bien d'y vivre encore mieux.
Mieux,
voilà.
Si on peut. Donc, vous m'avez expliqué que vous avez un travail qui est de recherche, mais aussi vous êtes en contact avec beaucoup de monde, dont des astronomes, et sûrement des astronomes, donc dans les deux parties. Donc, vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui avez-vous vu ou récemment ou un peu dans le passé d'astronomes dont tout le monde a entendu parler et que vous avez eu la chance fantastique de côtoyer?
Alors, j'ai eu la chance de côtoyer l'éthologie, pour avancer un petit peu dans la définition, en tout cas dans la pratique de l'éthologie. On observe, mais sans intervenir. Donc, j'ai rencontré mes sujets d'observation, si on peut dire, après les avoir étudiés. Après, j'ai fait des petites études sur l'adaptation très précoce aux conditions d'impesanteur. Et là, bien évidemment, j'ai rencontré... parce qu'elle voulait... C'était une gymnaste aussi, en tout cas on s'est rencontrés en vol parabolique, et je veux parler de Claudie Aigneret. J'ai rencontré dans ma carrière de fameux chercheurs, des chercheurs passionnants, des collègues passionnants, mais les femmes scientifiques et les femmes qui ont aussi cet imaginaire, j'ai été... vraiment très agréablement pas surprise, mais un travail très agréable et passionnant de faire avec elle. Et Claudie, Aigneret, nous avons fait des vols paraboliques ensemble, et ça date déjà, hein, c'est déjà toute une vie de terrienne que nous avons eue, puisque c'était à bord de la caravelle 0G, on appelait, donc il y a plus de 20 ans, et c'était ses premières sélections, entraînement, et voilà, hein, des expériences avec les astronautes passionnants et avec les astronautes femmes et hommes aussi. Hein. On imagine la mise en apesanteur, c'est léger.
Hein. Oui, on se sent une petite bulle.
Voilà, on se sent une petite bulle, donc voilà, ça c'était pour l'anecdote, mais la motricité change.
Hein. Ah oui.
Donc toute activité, même interaction entre... Les membres d'équipage, que ce soit dans l'entraînement et surtout, j'imagine, sur Mars, lorsque le groupe va aller vivre l'interaction, lorsqu'on est en 0G, en tout cas, on saute un peu.
Oui, on a vu ça sur la Lune.
Probabilité,
oui.
Voilà. Même l'interaction pour se dire bonjour, ça va être un peu difficile. Si on n'arrive pas à se toucher la main.
Oui,
du premier
si on se rejette et chaque fois qu'on
voilà,
se touche la main.
Voilà, ou alors si on se touche de trop. Voilà. C'est ce sur quoi je travaille, hein, le comportement moteur aussi dans ces conditions d'un environnement physique qui est particulier.
Et donc, en fonction de ces études, vous allez expliquer aux futurs astronautes comment il faudrait se comporter pour éviter, quand on touche une paroi, de se retrouver à l'autre bout de la pièce, juste comme ça ?
Pas tout à fait. On ne va pas induire le comportement. Là, c'est plus de la recherche fondamentale. C'est basé sur les modèles d'adaptation. Ça serait plus, on observe comment l'homme dans l'espace s'adapte et l'application, c'est d'adapter l'espace à l'homme. Voilà. Donc, soit avec les architectes, soit concevoir des environnements qui permettent d'éviter un petit peu les conflits sensoriels, parce que lorsque on ferme les yeux dans l'espace, on n'a plus la notion du haut et du bas.
Oui, on sait plus loin.
Donc la verticale devient une verticale visuelle. Mmh. Donc il faut leur aider à retrouver le haut et le bas. On peut adapter l'espace. Le temps aussi, parce que le temps, la chronologie peut changer un peu.
Hein, le lever du soleil par jour, c'est
voilà, hein, on n'est pas sur la planète du Petit Prince, mais on s'y rapproche.
Ah,
donc,
ouais.
On n'est pas levé du soleil tous les 24 heures. Voilà. Oui. La communication avec la Terre aussi, il y a 40 minutes de décalage, donc là aussi. Hein, on n'est pas avec la 4G Internet,
oui,
hein,
oui.
Vu que là, on a un temps de communication
qui va être très long,
qui va être très long, donc la communication change, donc tous les gestes de la vie quotidienne changent pour manger, pour se déplacer, pour communiquer, mais ce qui reste, c'est que on peut rêver dans ces espaces là
oui.
Voilà,
ça fait rêver beaucoup de gens,
ça fait rêver, et si sur Terre ça fait rêver, c'est déjà un bon point de départ pour pouvoir y aller.
Les astronautes que vous avez côtoyés, ils ont quoi comme formation? Si un de nos auditeurs dit « Demain, je vais être astronaute. » Voilà. Il est passionné et il entend des choses très intéressantes. Il a autour de lui des gens qui lui disent qu'il y a vraiment un intérêt fantastique dans la vie de pouvoir se balader dans l'espace ou peut-être être un des pionniers qui ira sur Mars. Il faudrait qu'il fasse quoi?
Alors, les astronautes, vu que j'ai eu 25 ans de carrière, les astronautes que j'ai connus, ce n'est pas Jean-Luc Chrétien et Patrick Baudry, mais j'ai connu la génération de Claudie Aigneret avec Michel Tonini, Jean-Pierre Aigneret, et mis à part Claudie qui était une médecin, hein, médecin à bord toujours nécessairement, les autres étaient des pilotes d'essai.
Oui.
Donc on est encore là, pour moi, pour ce qui me concerne, je rencontrais à l'époque de l'étoffe des héros.
Oui, c'est ça.
Voilà, les pilotes au départ.
Des pilotes qui ont plusieurs milliers d'heures de vol.
Voilà,
qui savent
Aujourd'hui, non.
Gérer des situations difficiles.
Les scientifiques, les astrophysiciens peuvent venir, voire même peut-être des journalistes, voire même des artistes.
Vous êtes au courant qu'il y en a, un Japonais vient d'acheter 7 places dans la Big
Falcon
Rocket.
C'est autre chose.
Oui, vous parlez d'artistes. C'est pour aller faire le tour de la Lune et emmener des artistes pour faire une création lunaire. C'est complètement fou. Enfin, c'est extraordinairement... moi, je trouve ça fantastique que quelqu'un qui a beaucoup d'argent puisse emmener des gens en leur disant « On va sortir de la Terre, on va aller faire le tour de la Lune, vous allez faire une création extraordinaire. »
Voilà, quand je parlais d'imaginaire, je parle d'imaginaire parce que j'arrive récemment, je suis arrivée il y a 3 jours, j'arrive d'un workshop, d'un séminaire à Toulouse, en sciences de la vie, l'homme dans l'espace et en impesanteur, et les chercheurs dans les tables rondes disaient, et pourtant on est dans le domaine depuis quelque temps, il faut garder l'imaginaire. Donc moi en tant que chercheur, avec tout se passe, j'apprends toujours, et je crois que c'est aussi mon état d'esprit, et cet imaginaire-là, les artistes peuvent très bien le développer, et le ramener sur Terre au service des
terriens.
Des terriens.
Des pauvres terriens.
Il faut le dire.
Donc, voilà. Si on n'est pas pilote d'essai, ou pilote de chasse, ou pilote, donc on est technicien, et est-ce qu'il y a aujourd'hui une voie pour des techniciens qui... Alors quelqu'un qui pourrait être, je sais pas, spécialiste en géologie, ou en mécanique des fluides, ou n'importe quoi, qui pourrait prétendre à avoir l'espoir d'aller dans l'espace... Il faudrait qu'il s'adresse comment ?
Alors, je ne peux pas vous dire, vous donner un CV spécifique. Simplement, moi, ce que je dirais, je parle d'un équipage multiculturel. Je pense que chaque membre d'équipage doit avoir multi-compétences. Aujourd'hui, un pilote d'essai uniquement ou un médecin uniquement, cela ne rentrera pas dans le cadre d'un équipage pour apporter... le savoir et le savoir-faire. La multicompétence, on peut être à la fois philosophe et astrophysicien, on peut être à la fois médecin qu'est-ce qui va avec la médecine, peintre finalement, ou journaliste. La double compétence, ou la triple, ou la multicompétence, je pense, et qui peut être dans tous les domaines, dans toutes les questions.
Oui, géologue, oui.
Voilà,
une passion.
Voilà. Une passion, une motivation.
Motivation.
Oui. Voilà.
Le terme de motivation revient souvent dans les entretiens que j'ai l'occasion de faire. Tout le monde porte l'accent sur quoi qu'on décide, il faut être motivé de le faire. Parce que il y a des obstacles. Bon, il faut déjà, physiquement, ça ne doit pas être évident de résister. Quand on voit les entraînements, quand on voit ce que les gens suivent, j'hésite à dire subissent, mais oui, quand même, il y a des contraintes terribles, physiologiques et physiques. Et si on n'est pas motivé, on arrête, quoi. Voilà.
Ouais. Après, il y a motivation. On est tous motivés
dans
la vie, dans son travail, le matin, quand on va se... Mais après, ça dépend quel type de motivation. Là, récemment, donc, dans mes séminaires et dans mes conférences, là je rentre aussi d'une autre conférence d'un peu plus loin, la motivation c'est une chose, mais c'était un aventurier, disons, pas un astronaute, mais qui disait l'important c'est d'être utile. Donc je suis motivée parce que je veux être utile pour la science. Les astronautes ne sont pas des cobayes, les hivernants dans les bases... polaires que j'ai observés, ce sont encore moins des cobayes, vu que ce sont des chercheurs, des sismologues, des glaciologues, etc. Mais le point commun et la motivation réelle, c'est d'être utile pour la science.
Faire progresser une connaissance.
C'est une motivation qui doit être une motivation un peu humaniste, pas basée sur soi-même, je veux me lancer des défis par rapport à moi-même, mais une motivation qui s'ouvre vers la coopération, vers les autres. Ça, c'est un terme d'anthropologue,
la coopération. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour les gens qui seront enfermés dans une capsule pendant 20 mois, il faut vraiment que la coopération marche à fond.
Voilà, mais peut-être sur Terre aussi, hein, quand on est enfermé dans les réseaux virtuels, la coopération, ça peut être aussi un facteur d'adaptation aux conditions de vie habituelles ou inhabituelles, parce qu'on va beaucoup plus loin.
Une petite question sur votre société Ethospace. Comment vous décrochez des marchés qui paye, qui vous paye, pour être basique, qui vous permet de faire des études, de passer du temps pour aller interviewer des gens, participer à des congrès, le nerf de la guerre c'est l'argent. Comment on trouve cet argent pour faire des choses aussi passionnantes qu'aller rechercher un environnement particulier et développer ça?
Alors, dans ce métier que je fais, Ethospace, la plus grande richesse, c'est ce que j'apprends, parce qu'Ethospace n'est pas une entreprise, Ethospace est une association. Donc c'est un but non lucratif, mais malgré tout, je réponds aux mêmes appels d'offres pour des budgets de subventions, au même titre, non pas des appels d'offres d'entreprises, mais des appels d'offres au même titre que le CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique, le INSERM, le Centre de Recherche Médicale, les laboratoires universitaires. Donc je réponds à ces appels d'offres sur des projets qui sont des projets scientifiques et c'est pas un sponsor, ma subvention principale, c'est le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Voilà. J'ai commencé mes études de biologie, de physiologie, puis d'éthologie. Ensuite, j'ai créé Touspace parce qu'on m'a dit « tu seras quelqu'un de terrain ». Donc, avec Touspace, je suis allée sur le terrain, donc au pôle sud, en vol parabolique, donc en terre à délit, en immersion en piscine, en sous-marin. Donc, voilà mon terrain. Donc, un travail de terrain et les projets sont soumis donc au CNES. Ils sont évalués par un comité scientifique avec les subventions, les financements qui se font en retour par rapport aux qualités, ce qu'on appelle de production scientifique, c'est-à-dire de publication, de résultats de recherche. C'est ce que doit fournir le chercheur, publier, c'est-à-dire partager sa science.
Oui, votre
donc, ce n'est pas une entreprise.
Oui, d'accord.
Pas dans le...
Oui, on n'est pas dans le business.
On n'est pas dans le business, on se cache les informations.
Là, on est... On
voilà.
Partage.
Voilà, on partage, mais donc, c'est de la recherche fondamentale, même si c'est... un travail de recueil de données sur le terrain avec des petits budgets.
Hein oui. Voilà. Oui, c'est une petite association.
C'est une association. Dans la mesure où c'est une association, il n'y a pas de profit. Je le mets au service. Voilà. Moi-même, je suis donc j'assure la direction scientifique avec un conseil scientifique qui fait de membres d'honneur, d'industriels, mais aussi de chercheurs un peu pluridisciplinaires. Mais il y a ensuite un président, un secrétaire, un trésorier. Ça, c'est la partie administrative d'Ethospace.
Dans toute association.
Voilà. Donc, finalement, Ethospace, comme vous disiez au départ, est basé à Pierrevert. Mais Pierrevert, c'est mon bureau.
Oui.
Mais le siège social est à Toulouse.
Il est à Toulouse.
Voilà.
Proche des donneurs d'ordre que sont le CNES ou...
Non, pas proche, parce que on peut... Après, c'est le CNES Paris. Hein, et puis aussi l'Agence spatiale européenne. C'est une structure où il y a des Américains, des Européens. Donc, j'ai eu aussi des contrats avec l'Agence spatiale européenne. Mais les structures publiques de recherche. Mais aujourd'hui, arrive enfin, après 25 ans de travail passionnant à Ethospace, qu'on fait l'appel à moi, par exemple, au CNES dernièrement, pour étudier les facteurs humains en salle de contrôle de satellites. Donc là, la méthode éthologique, c'est toujours observer, décrire et quantifier le comportement, et là, en l'occurrence, des contrôleurs face à leurs écrans de contrôle. Et le côté appliqué, c'est de trouver des petits indicateurs comportementaux qui anticiperaient l'erreur humaine. Par exemple, se gratte le nez, se frotte le front, ces petits gestes qui sont anodins, mais si on les mesure et qu'ils augmentent en termes de nombre, objectivement, on peut dire, tiens, il y a une alarme au niveau humain, voilà, ou une fatigue, ou une monotonie aussi. Hein, et donc, aujourd'hui, on fait appel à moi pour pouvoir appliquer, mesurer. Hein, c'est une mesure simple et pas barbare, comme on le disait au départ, vu que finalement, comme je disais, on est tous des éthologues. Hein,
oui.
Si on observe la petite fourmi qui se déplace, si on observe les gens dans les cafés aussi, j'aime bien m'arrêter comme ça pour voir comment on se comporte. Et puis après, quand on est chercheur et éthologue, on est un peu curieux. On se dit, mais pourquoi ils font ça? On le laisse aux psychologues.
Voilà, pourquoi est-ce qu'ils survivent devant un écran, un smartphone?
Ils
ne regardent pas les gens charmants qui sont en face d'eux.
Voilà, la limite de l'éthologue, c'est l'observable. Après, le psychologue, l'ergonome va adapter, c'est résolument s'inscrire dans une démarche pluridisciplinaire. C'est ça l'objectif.
Mais écoutez, c'est très très intéressant. Ça ouvre une dimension qu'on ne connaît pas, que très très peu de gens connaissent l'éthologie, bon, encore moins l'éthosphase, c'est sûr.
Mais tout le monde en fait.
Oui, mais tout le monde en fait. C'est comme la prose de M. Jourdain. Tout le monde fait de l'éthologie sans savoir.
Voilà.
C'est quand même un petit peu plus compliqué que de faire de la prose.
C'est un peu plus compliqué parce que ça m'a demandé 10 ans d'études quand même pour, arriver,
pour y arriver là.
À éthologue. C'est une thèse et ensuite un post-doctorat sur... pour pouvoir réellement mener à bien les projets, parce que ce sont des projets de grande envergure,
hein, donc,
vu que maintenant ce sont des projets où l'homme ira sur Mars, mais l'éthologue apporte sa petite contribution.
Vous êtes candidate pour aller sur Mars ?
Absolument pas. En éthologie, on observe, mais on ne vit pas avec.
D'accord.
Donc je prends de la distance par rapport à ça.
Oui, la distance, c'est avec 150 millions de kilomètres.
Oui, à la limite, m'entraîner en 0G.
Oui,
voilà.
À part
voilà.
Caravelle, vous avez volé sur l'Airbus
Non. Parce qu'après, j'ai poursuivi en allant travailler sur les missions de plus longue durée. Donc je suis allée en Terre Adélie, plutôt pour travailler plus sur le groupe, comment il évoluait dans le temps, et moins sur la partie très comportement moteur d'un vol de courte durée, des vols de la navette spatiale, et puis ensuite de la station Mir, donc ça date déjà un petit peu.
Oui, la station Mir, c'est pas
voilà. Dire. Mais quand on regarde le ciel de Pierre Vert le soir, là, des fois je me dis, tiens, il y a mon bureau qui passe sous ma fenêtre, quand je vois la station spatiale internationale. Donc, voilà. Mon esprit est toujours ailleurs, mais quand même très, très concret dans la démarche de l'éthologue.
Bien terre à terre et la tête dans les étoiles.
Voilà.
Lors de la prochaine émission, le 4 avril, nous verrons les premiers vols américains. Comment et pourquoi ont été préparés la conquête de l'espace? D'ici là, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur le site Facebook de Fréquence Mistral. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous trouverez sur le site de Fréquence Mistral les références des ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission ainsi que les précédentes. L'émission d'aujourd'hui sera rediffusée le mercredi 20 mars à 15h. Vous avez pu apprécier aujourd'hui le splendide Sunshine de John Murphy. Merci à James pour la technique, à François et son équipe pour leur accueil. Je vous souhaite une très belle fin de journée.
Bienvenue dans Horizon Inaccessible.
Bonjour chers auditeurs.